RFI, 7h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Julien Coquelroy, bonjour à toutes et à tous.
La guerre s'installe entre Israël et l'Iran.
Troisième nuit de confrontation militaire entre les deux pays. Israël a bombardé des sites stratégiques sur le territoire iranien, tandis que Téhéran met en scène sa riposte. Les images des frappes iraniennes font la une en Iran. Frappes qui ont fait au moins 8 morts et plus de 130 blessés sur le territoire israélien. Nous appellerons Michel Paul à Jérusalem dès le début de ce journal. Nous serons aussi au Liban qui craint un embrasement régional. Donald Trump, ravi aux États-Unis, lui qui a fêté son 79e anniversaire avec un immense défilé militaire à Washington, alors que dans tout le pays, les rassemblements se sont multipliés contre le virage autoritariste pris par l'administration du président républicain. Floribert Buanachoui, contrôleur des douanes, devenu figure charismatique en RDC, martyr congolais, tué en 2007 à Goma. Il sera béatifié aujourd'hui à Rome. Et puis en France, Nicolas Sarkozy, déchu de sa Légion d'honneur, une première pour un chef d'État français depuis le maréchal Pétain en 1945.
La riposte iranienne ne faiblit pas. Téhéran envoie une nouvelle salve de missiles sur le territoire israélien.
Les images qui tournent en boucle sur la télévision d'État iranienne. La République islamique se félicite de sa riposte. Les frappes iraniennes ont touché la région d'Haïfa, au nord, mais aussi le centre du pays et l'ouest de Jérusalem. Jérusalem, où l'on retrouve notre correspondant Michel Paul. Bonjour Michel.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Pour la deuxième nuit de suite, Israël a été bombardé sur son sol. Des millions de personnes ont été appelées à se réfugier par deux fois dans les abris.
Oui, le bilan du double barrage de missiles balistiques est particulièrement lourd. 4 femmes tuées dans le village arabe de Tamra, dans le nord d'Israël, en Galilée, à la suite de la première salve. Elles appartiennent toutes les 4 à la même famille. Quelques heures plus tard, un nouveau tir de missile particulièrement bien nourri a provoqué également 4 morts, dont 2 enfants, dans le centre du pays, à Bat Yam, une banlieue au sud de Tel Aviv. Des tirs sur la ville de Rehovot, où l'Institut universitaire Weizmann a été touché de plein fouet. Des laboratoires de recherche sont encore en feu ce matin. Impact également dans la région de Jérusalem. Et le bilan risque de s'alourdir à ce stade. Il y a 35 disparus et près de 200 blessés, dont certains dans un état critique. Beaucoup de destruction aussi. Les services de secours recherchent toujours des survivants dans les décombres. Il s'agissait d'une attaque combinée. Une centaine de missiles et des drones qui ont envoyé pratiquement l'ensemble de la population israélienne dans les abris. Et à cela s'est ajouté également un tir de missile en provenance du Yémen.
Et Michel, par ailleurs, l'aviation israélienne a continué ses bombardements sur des sites stratégiques iraniens.
Oui, une série de frappes intensives de l'aviation israélienne sur la capitale iranienne. Israël dit avoir visé le ministère de la Défense et des sites liés au projet d'armes nucléaires. Sur son compte Telegram, l'armée israélienne affirme qu'il s'agissait d'attaques basées sur le renseignement et qui visaient des cibles à Téhéran liées au projet nucléaire iranien. Outre le ministère de la Défense, le SPND, c'est le siège de l'Organisation d'innovation et de recherche défensive de l'Iran. Mais il y a eu également une frappe israélienne au Yémen hier soir, selon des sources sécuritaires israéliennes, une attaque qui visait à éliminer un dirigeant houthi. Pas de commentaire officiel à ce sujet. Et la réaction d'un responsable israélien ce matin sous couvert d'anonymat au Wall Street Journal. Désormais, tous les objectifs sont dans le collimateur d'Israël, y compris Ali Khamenei, le guide suprême.
Merci Michel Paul, en direct de Jérusalem sur RFI. À noter qu'en Iran, les examens universitaires sont suspendus dans tout le pays. La bourse de Téhéran est fermée pour 3 jours et que les premiers habitants de la capitale ont commencé à fuir la ville.
Et la confrontation militaire entre Israël et l'Iran au cœur des discussions des dirigeants du monde entier.
Et plusieurs camps se dégagent. Le Kremlin a condamné l'offensive israélienne lors d'un appel téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Les chefs d'État turcs et saoudiens se sont aussi entretenus. Hier, Recep Tayyip Erdogan et Mohamed Ben Salman ont pointé du doigt Israël comme la plus grande menace régionale. Une instabilité qui inquiète aussi au Liban, pays voisin d'Israël, le Liban où le Hezbollah est activement soutenu par l'Iran. Le Liban où les habitants craignent de voir leur pays entraîné dans un nouveau conflit au Proche-Orient, à Beyrouth, Paul Khalife.
L'inquiétude des Libanais vient du fait que leur pays a de tout temps été une caisse de résonance pour tous les conflits du Moyen-Orient. Ce traumatisme est à l'origine des nombreuses mises en garde de rester à l'égard de la guerre entre l'Iran et Israël, entendue ces dernières 48 heures. Des avertissements adressés surtout au Hezbollah, qualifié par les uns de proxy ou d'allié de l'Iran et par les autres de créature iranienne. Même s'il est directement affecté par ce conflit et que son avenir pourrait dépendre de l'issue de cette guerre, le Hezbollah n'a ni l'intention ni les moyens d'y participer. Très affaibli par le dernier conflit avec Israël, le parti chiite n'a pas fini de panser ses plaies. Il est actuellement en période de restructuration et de réorganisation et a lancé de vastes chantiers de réflexion interne pour redéfinir sa stratégie. Sous forte pression pour remettre l'intégralité de son arsenal, tous ses faits et gestes sont scrutés par les autorités, la classe politique et la population. Une petite phrase lancée par l'un de ses députés confirme cette analyse. L'Iran sait comment protéger son peuple et n'a jamais demandé à quiconque de se battre pour lui, a souligné Hassan Fadlallah. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Le chef d'État français Emmanuel Macron a lui téléphoné au président iranien Massoud Pezeshkian, lui demandant de revenir rapidement à la table des négociations sur le dossier nucléaire, alors que les pourparlers prévus ce dimanche entre l'Iran et les États-Unis à Oman ont été annulés. On reparle de la confrontation militaire entre l'Iran et Israël tout au long de la matinée sur RFI, notamment dans un peu plus de deux heures. L'ambassadeur d'Iran en France, Mohamed Ahmadinejad, sera votre invité, Julien.
Et Donald Trump au garde à vous et tout sourire à Washington.
Le président républicain s'est offert un beau cadeau pour ses 79 ans, avec un défilé militaire de 7000 soldats dans les rues de la capitale, une première parade du genre depuis 1991 dans le pays. Parade à laquelle a assisté Loubna Naki.
Des soldats au pas dans les rues de Washington. Ils étaient près de 7000 militaires, des chars, des avions, sous le regard de Donald Trump et les applaudissements de plusieurs milliers de personnes. Parmi les spectateurs, de nombreux partisans du président.
On adore les parades, on adore être patriote. On est venu célébrer le 250e anniversaire de l'armée et c'est l'occasion de s'amuser.
C'est génial, c'est tellement formidable d'être ici à Washington, de voir le président, sa femme Melania, tout le gouvernement. Quelle formidable époque pour l'Amérique.
Walter est venu en famille. Pour lui, le fait que ce défilé coïncide avec l'anniversaire de Donald Trump est tout simplement dû au hasard.
Le président Trump n'est pas un dictateur. Beaucoup de gens l'accusent d'en être un, mais ce qu'il fait pour notre pays est vraiment incroyable.
Donald Trump a tout de même eu droit à une chanson de la foule. Des célébrations qui n'étaient pas du goût de tous. À quelques rues de là, un groupe de manifestants dénonce la politique du républicain.
Trump voudrait tellement être roi, mais ce n'est pas ça notre pays.
Des rassemblements massifs contre le président ont eu lieu partout dans le pays. Loubna Naki, Washington, RFI.
À la une également ce matin, Martin, un martyr congolais béatifié ce dimanche à Rome.
Floribert Bouanachoui, laïc de 26 ans, tué en 2007 à Goma, contrôleur des douanes, devenu figure charismatique en RDC. Et pour l'église, lui qui avait refusé de laisser entrer dans son pays des vivres avariés et qui avait été tué dans l'exercice de ses fonctions. Le pape François l'avait reconnu comme martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Floribert Bouanachoui qui s'est aussi impliqué auprès des plus pauvres à Goma. Correspondance à Rome, Eric Sénanque.
La béatification de Floribert Bouanachoui est un moment très attendu pour de nombreux Congolais, en particulier dans la ville de Goma. Aline Minani était une amie du jeune contrôleur des douanes. Elle est responsable de la communauté catholique Saint-Egidio à Goma, dont faisait partie Floribert et au sein de laquelle celui-ci s'occupait des enfants des rues.
Nous nous sommes préparés à vivre ces moments avec beaucoup d'émotions, beaucoup de joie et de reconnaissance envers Dieu pour les dons de la vie de Floribert dans notre communauté de Saint-Egidio à Goma et partout dans le monde.
Et derrière la figure de Floribert, cette béatification est vue par beaucoup comme une invitation à lutter contre la corruption. En janvier 2023, le pape François l'avait d'ailleurs érigé en modèle en rencontrant la jeunesse congolaise à Kinshasa. Un message toujours actuel en RDC pour Aline Minani.
Il a lutté à main nue contre la corruption. Et aujourd'hui, pour toute la jeunesse congolaise, je pense que c'est une invitation. C'est possible de vivre, garder sa liberté même devant l'argent. Nous voyons combien de fois il y a le fléau de la corruption qui regorge nos institutions. Et je pense que Floribert, c'est un modèle. Et aujourd'hui, dans ce climat qui règne dans notre pays, c'est le moment de prendre conscience qu'il faut changer, qu'il faut suivre, emboîter les pas de Floribert Bouanachoui.
Pour des raisons sécuritaires, la messe de béatification ne peut se tenir à Goma, mais de nombreux Congolais ont fait le voyage à Rome, à commencer par Mgr Winnie Ngumbi, l'évêque de la capitale du Nord Kivu, et le cardinal Fridolin Mbongo, l'archevêque de Kinshasa. Eric Sénanque, Rome, RFI.
RFI à Paris, 89 FM et en DAB+.
RFI, 7h09 à Paris, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, privé de sa Légion d'honneur.
Et ce n'est que la deuxième fois de l'histoire que cela arrive en France, une première depuis le maréchal Pétain en 1945. Nicolas Sarkozy condamné à un an de prison ferme pour corruption en décembre dernier dans l'affaire des écoutes. L'arrêté le privant de sa Légion d'honneur de la plus haute distinction française est publié au journal officiel ce dimanche.
Le Parti Socialiste réunit, lui, ses troupes dans l'Est de la France, des troupes en ordre dispersé.
Les 40 000 adhérents du parti à la Rose qui viennent de reconduire Olivier Faure comme premier secrétaire du parti. Il l'a emporté d'un cheveu face à son concurrent Nicolas Mayer-Rossignol. Les divergences sont encore grandes entre les deux hommes, notamment autour de l'Union de la gauche et des alliances avec la France insoumise. Reportage Valérie Gasse.
Comment ne pas continuer à se déchirer à propos de LFI, à entendre le député Jérôme Guedj quand il parle de Jean-Luc Mélenchon, on se dit que ça va être difficile.
J'ai une meurtrissure terrible à dire devant ce congrès, qu'il est devenu un salopard antisémite.
Avec moins d'émotion dans la voix, Nicolas Mayer-Rossignol met aussi en garde Olivier Faure. LFI, c'est toujours non.
Être fidèle au socialisme dans ce congrès, c'est non seulement dire et écrire qu'il n'y aura pas, ni au plan national, ni au plan local, ni en cas de dissolution d'alliance avec la France insoumise.
Et ça commence par les municipales. Olivier Faure assure qu'il n'y aura pas d'accord national avec LFI, mais certains militants comme Loris se méfient des aménagements locaux.
Moi je demande des gages, qu'on ne se promette pas de faire des alliances avec la France insoumise pour sauver quelques communes par-ci par-là.
Un autre militant, Paul, soutien de Boris Vallot, est plus ouvert.
Moi l'objectif c'est de gagner avec LFI dans certaines circonstances ou alors de gagner seul.
Dans l'entourage d'Olivier Faure, on explique qu'il faut sortir de ces divisions comme la maire de Rouen, Johanna Roland.
Nous avons suffisamment parlé entre socialistes. C'était sans doute bien nécessaire. L'heure est à parler aux Français.
Une adresse aux Français, c'est ce que veut Olivier Faure dans l'espoir de clore le congrès en élargissant le débat. Valérie Gasse, Nancy, RFI.
Et puis Martin, on termine au Japon. L'archipel s'alarme contre l'extrême maigreur de ses citoyennes.
Dans l'archipel, il existe 5 fois plus de femmes en insuffisance pondérale qu'en Allemagne ou qu'aux États-Unis, par exemple. Un quart des Japonaises de moins de 30 ans sont dans ce cas. À Tokyo, correspondance de Bruno Duval.
Dans les rues de la capitale, les chiffres alarmants du ministère de la Santé n'étonnent personne.
Je fais un régime depuis un an ou deux et souvent je me sens vraiment faible. J'ai des étourdissements et des difficultés de concentration. Mais je m'en fiche, je veux à tout prix être très mince, donc très belle.
Je vis dans la hantise de me prendre des réflexions du genre « Dis donc, t'as pas un peu grossi toi ?»
Sur les réseaux sociaux, des influenceuses disent que le poids idéal c'est 35 ou 40 kilos, pas plus. Et elles assurent que ne faire qu'un seul repas par jour suffit amplement.
À longueur de journée, on est inondé de pubs pour les compléments alimentaires ou les coupe-faim. Donc des gens en viennent à se nourrir de gélules. Il faudrait vraiment réglementer tout ça.
Les études montrent que les Japonais n'ont jamais consommé autant de coupe-faim. Afin de maigrir, pour certains, mais aussi pour d'autres, en raison de l'inflation qui atteint un niveau sans précédent depuis 3 décennies. Le riz, par exemple, coûte presque 2 fois plus cher qu'il y a un an. Ces coupe-faim permettent donc d'économiser en ne faisant que 2 repas par jour, en sacrifiant le déjeuner le plus souvent. Dès lors, selon des experts, pour lutter contre l'amaigrissement d'une part grandissante de la population, il ne suffit pas de mieux contrôler ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux, il faut aussi prendre des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Et à Tokyo, il est 14h13, l'heure de retrouver Julien Coquel-Rohem.
Merci Martin Guèze, à tout à l'heure. Dimanche 15 juin 2025, bienvenue à vous. RFI matin, 3 heures d'information au 3e jour de l'escalade entre l'Iran et Israël. La guerre s'installe entre les deux pays alors que cette nuit, l'Iran a continué de riposter en tirant des missiles sur le sol de l'État hébreu. Au moins 8 morts et des dizaines de blessés. L'Iran frappé aussi par Israël cette nuit. L'armée israélienne a ciblé notamment le ministère de la Défense, des sites du programme nucléaire et des sites pétroliers et gaziers. On suit la situation toute la matinée avec nos correspondants à Jérusalem. Jérusalem, à Téhéran, on retrouve Siavosh Ghazi dans la capitale iranienne à 6h, temps universel. On en parle aussi avec nos invités, Sébastien Boussois, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, avec nous dans tout juste 1 heure. Et dans 2 heures, avec l'ambassadeur d'Iran en France, Mohammad Amin Nejad. Et bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour.
Journaliste au service international de RFI, spécialiste de la région, en studio à mes côtés pour faire un premier point. On voit donc à nouveau cette nuit un bilan élevé en Israël. Au moins 8 morts et des dizaines de blessés. Depuis le début de la riposte iranienne, Israël et ses alliés ne sont pas parvenus à intercepter tous les missiles. La question des limites de la défense israélienne est-elle posée par ce à quoi on assiste aujourd'hui?
Oui, hein, le bilan de la nuit reste effectivement incomplet et incertain. Tant du côté iranien que du côté israélien. Alors côté iranien, les défenses antiaériennes semblent bien peu efficaces hein, pour contrer les raids israéliens. Mais effectivement, hein, côté israélien se pose aussi la question de la capacité d'interception des missiles tirés par l'Iran, dont certains ont fait au moins 8 morts, et aussi de nombreux disparus sous les décombres d'immeubles d'habitation qui ont été détruits. Les recherches sont en cours. Alors, rappelons effectivement que, en théorie, Israël n'est pas seul face à ces tirs. On a vu dans le passé les États-Unis, mais aussi d'autres pays occidentaux, dont la France, intervenir l'année dernière pour intercepter des missiles iraniens. Ces derniers jours, un responsable américain a confirmé que c'était de nouveau le cas dans le contexte actuel. Reste que se pose effectivement ce matin la question des limites de ce parapluie antimissile à la fois opéré par Israël et par ses alliés.
Avec aussi la question de la résilience côté iranien, puisque le bilan matériel est plus clair et plus lourd aussi côté iranien. On l'a dit, des dizaines de sites nucléaires et militaires touchés, des premières frappes contre les installations gazières et pétrolières. Combien de temps ça peut durer un tel conflit à une telle intensité entre les deux pays?
Alors, interrogé sur ce point hier sur RFI, l'ambassadeur d'Israël en France a parlé d'une opération limitée dans le temps, selon lui, quelques semaines. Il s'agit bien sûr d'une posture officielle. Il faut noter que plus de 48 heures après le début des frappes israéliennes, il reste impossible d'évaluer l'impact réel des bombes israéliennes sur les installations nucléaires de l'Iran, des installations dont on le sait, certaines sont profondément enterré. Il faudra probablement des semaines ou des mois d'analyse, notamment à l'aide d'images satellitaires, pour comprendre ce qui exactement se joue sur ces installations.
On voit aussi l'énorme liberté d'action d'Israël, de plus en plus manifeste sur le sol iranien. L'armée israélienne dit avoir la maîtrise du ciel dans l'ouest du pays et jusqu'à Téhéran. On voit aussi que les Israéliens ont pu préparer l'opération pendant 8 mois avec des incursions du Mossad sur le sol iranien, avec des armes et même des infrastructures installé dans le pays. Il y a eu un gros échec du renseignement iranien.
Alors c'est vrai, en termes de renseignement et de capacité d'action loin de ses frontières, l'armée israélienne a réussi à surprendre l'Iran. Ce qui en témoigne le plus, ce sont les frappes qui ont tué de très hauts cadres militaires et des scientifiques du programme nucléaire iranien. Alors là, une fois de plus, l'armée israélienne semble avoir capitalisé sur les épisodes de confrontation de l'année dernière qui ont probablement profondément affaibli la capacité de protection et d'anticipation de l'Iran.
Avec notamment les frappes du mois d'octobre. Hier, Benjamin Netanyahou a dit que tous les sites et toutes les cibles du régime iranien seront visées. On entend même une source israélienne dire que l'ayatollah Khamenei, le guide suprême, serait sur la liste. La chute du régime, ça peut être un objectif israélien aujourd'hui?
Alors, Benjamin Netanyahou envoie des signaux en ce sens, notamment dans une de ses déclarations de ces derniers jours, durant laquelle il s'est adressé directement à la population iranienne, y compris avec quelques mots en persan, et y compris en reprenant le slogan « Femme, vie, liberté », celui de la contestation qui avait ébranlé le pouvoir iranien ces dernières années. On imagine assez mal ce propos trouver un écho favorable auprès d'une population iranienne qui voit aujourd'hui les bombes israéliennes pleuvoir sur le pays, faisant des victimes et touchant les infrastructures. Mais on constate effectivement qu'Israël veut actionner ce levier, celui des fragilités d'une république islamique contestée en interne, sur fond de situation économique extrêmement dégradée. Situation économique dégradée notamment à cause des sanctions qui frappent l'Iran en raison de son programme nucléaire.
Sur le nucléaire, justement, on voit Téhéran accuser l'AIEA de son silence, affirmer qu'il ne coopérera plus avec l'agence comme avant, tout en disant qu'il ne négociera plus sur le nucléaire si Israël continue ses frappes. Ça veut dire, si on regarde la citation en miroir, que les négociations sont encore possibles. Ça peut pousser Donald Trump à appuyer sur la pédale de frein auprès de Netanyahou?
Alors, c'est l'une des questions posées par la décision israélienne de frapper. Est-ce que l'objectif réel, c'est d'écraser militairement les capacités nucléaires de l'Iran? On l'a dit, c'est très incertain. Ou est-ce qu'il s'agit d'exercer une pression nouvelle, renforcée, sur la République islamique, qui n'aurait désormais d'autre choix que de plier face aux exigences dans le cadre d'une future négociation? Un prolongement négocié qu'il est, encore une fois, bien difficile d'imaginer à l'heure où les deux pays comptent les victimes civiles et militaires de leur confrontation armée.
Ouais, un dernier mot, Nicolas. La Russie a condamné l'offensive israélienne et proposé sa médiation. La Chine s'est rangée derrière Téhéran. Quand on voit les États-Unis, d'autres pays occidentaux, la France notamment, soutenir le droit à se défendre d'Israël, à quoi on assiste diplomatiquement aujourd'hui?
Alors, le positionnement de la Russie et de la Chine est très attendu. Ces deux pays semblent pour l'instant assurer le service minimum de soutien à l'Iran, sans réelle volonté ou capacité de peser réellement dans l'immédiat. Bien sûr, il faut voir comment cela peut évoluer dans les prochains jours. Et on l'a vu, effectivement, un front occidental se ranger assez clairement derrière un supposé droit d'Israël à se protéger, qui n'existe pas en droit international, et qui peut-être peser sur la capacité future de ces pays à peser dans la négociation sur le nucléaire notamment.
Merci beaucoup Nicolas Falaise pour tous ces éclairages. On vous retrouvera tout à l'heure dans le journal de 7h temps universel, et à mes côtés pour notre entretien avec l'ambassadeur d'Iran en France. À tout à l'heure. C'est un secteur devenu crucial dans l'économie mondiale au point de devenir un levier de pression pour les pays qui le maîtrisent. Nous partons en Corée du Sud ce matin, l'un des pays sur le podium des exportateurs de semi-conducteurs, ces composants électroniques de plus en plus demandés. Ils sont désormais le fleuron de l'industrie sud-coréenne et le principal poste d'exportation du pays. C'est pour préserver cette place que la Corée du Sud met les bouchées doubles. 17,5 milliards d'euros investis l'an dernier pour soutenir la filière, une loi spéciale à l'étude pour allonger la semaine de travail au-delà de la limite légale des 52 heures dans les usines qui les fabriquent, une priorité économique qui cache aujourd'hui le coût social de la production de semi-conducteurs, la souffrance des travailleurs et surtout leur manque de protection alors qu'ils sont exposés à des produits chimiques dangereux et au risque de cancer. À Séoul, c'est un reportage de Celio Fioretti.
Après 20 ans de carrière passée à Samsung, Jong Yong-suk porte un constat amer sur son travail qui l'a poussé à démissionner en 2015.
J'étais fière de travailler pour Samsung, mais cela a failli me tuer. Quand je suis arrivée dans l'entreprise après le lycée, je n'avais pas eu de formation sur les dangers de ce métier. On ne savait pas les risques, on allait dans l'inconnu.
Sur les chaînes de production des semi-conducteurs, elle et ses collègues ont été exposés pendant des années à des produits chimiques dangereux, entraînant notamment des cancers, des maladies dont souffrent encore Jong Yong-suk et ses anciens collègues.
J'ai fait deux fausses couches, eu des problèmes d'infertilité et deux tumeurs, l'une à l'utérus et l'autre à la tête. Je suis encore aujourd'hui sous traitement. Autour de moi aussi, les gens tombaient malades. Mes deux supérieurs, l'un a eu un cancer de la peau, l'autre un cancer du poumon. Ils en sont morts. J'ai aussi vu une collègue accoucher d'un enfant mort-né. Une chef d'équipe est décédée très vite, sans que l'on sache de quelle maladie il s'agissait. Avec le recul, on pense que c'était peut-être une leucémie. À l'époque, on ne connaissait pas cette maladie. Elle n'avait que 24 ou 25 ans, ça m'a choqué.
Plusieurs centaines de produits chimiques différents sont utilisés dans les usines de semi-conducteurs de n'importe quelle entreprise du secteur. Seulement, en Corée du Sud, la législation autorise les sociétés à garder secrète la liste exacte des composants utilisés. Une mesure pour se protéger de la concurrence, mais qui ne permet donc pas de demander des mesures de protection adéquates. Lee Jong-ran de l'association Sharps, qui regroupe d'anciens employés du secteur, témoigne de la difficulté à mieux protéger les ouvriers.
Samsung, par exemple, après avoir été condamné en justice en 2018, s'est excusé pour le manque de protection et a promis des améliorations. Mais dans le même temps, l'entreprise a décidé de sous-traiter une grande partie de sa production à des sociétés externes qui sont moins regardantes et qui ne peuvent pas tenir Samsung responsable. Donc le problème s'est déplacé.
Aujourd'hui encore, les travailleurs des usines de semi-conducteurs ont 2 à 3 fois plus de chances de développer un cancer à cause des produits chimiques. Les syndicats et la communauté scientifique appellent à lever le secret industriel autour de ces composants de fabrication. C'est Lio Fioretti, Séoul, RFI.
Reportage en Corée du Sud à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio.
RFI Matin.
L'actualité politique en France, comme chaque dimanche. Et à venir cette semaine, la fin du conclave sur les retraites prévue ce mardi, selon la stratégie déterminée par François Bayrou. Le dossier reviendra ensuite devant le Parlement, avec potentiellement un nouveau texte à étudier. Bonjour Aurélien de Vernois.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Si les discussions entre les partenaires sociaux semblent avoir légèrement avancé ces derniers jours, le consensus n'est toujours pas trouvé, et les oppositions comptent bien mettre la pression sur le gouvernement.
À commencer par la France Insoumise, qui promet déjà une motion de censure si la réforme Borne, passée en force il y a 2 ans, n'est pas abrogée. La FI, qui se sent d'autant moins contrainte que la CGT, syndicat dont elle est le plus proche, a claqué la porte des discussions voilà des mois. Mais une nouvelle fois, c'est le Parti Socialiste qui pourrait s'ériger en arbitre. Le PS n'écarte pas de censurer le gouvernement Bayrou, mais son premier secrétaire, tout juste réélu, Olivier Faure, n'en fait pas une posture automatique. Il attend surtout l'épilogue des discussions entre partenaires sociaux. Proche du syndicat CFDT, qui négocie toujours avec le patronat, le parti à la Rosse pourrait s'accommoder de mesures sur la pénibilité, les carrières hachées, voire un changement de l'âge minimal de départ avec une pension complète sans avoir validé tous ses trimestres. La CFDT propose de le ramener à 66 ans au lieu de 67 actuellement. Mais si c'est le statu quo, je ne vois pas comment on ne censure pas, estime un influent sénateur PS.
François Bayrou affiche, lui, son optimisme.
Le Premier ministre l'a répété cette semaine, il croit qu'il existe un chemin vers un accord entre syndicats et patronat, et par là même un moyen pour lui de s'éviter une motion de censure délicate. Le problème, c'est que des messages contradictoires venus de ses propres rangs ont émergé ces derniers jours. Son prédécesseur, Édouard Philippe, défend ainsi toujours l'idée de relever l'âge légal de départ à la retraite, mais aussi d'introduire une part de capitalisation, c'est-à-dire une épargne individuelle pour financer sa retraite. L'idée fait son chemin dans les rangs macronistes, mais aussi à droite.
Le problème, Aurélien, c'est que cela risque de radicaliser les positions à gauche et à l'extrême droite.
Le Rassemblement National ne veut en effet absolument pas en entendre parler, alors qu'à gauche, le projet même de privatiser les retraites, même en partie, est vu comme un casus belli, un cadeau empoisonné donc pour François Bayrou, car un changement de système impliquerait de trouver des financements pour organiser la transition. Or, le Premier ministre a une mission, celle de faire des économies, 40 milliards sur le budget 2026. Les semaines qui s'annoncent pourraient donc se transformer en pente très glissante pour le gouvernement Bayrou.
Aurélien de Vernois, merci beaucoup. Jusqu'où va la science ? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
Retour sur les répercussions du confinement lié au Covid-19. Des chercheurs en neurosciences ont voulu savoir si ce stress émotionnel collectif s'était traduit par des modifications mesurables sur le cerveau humain. Et la réponse est oui, Caroline.
Et oui, c'est le résultat d'une étude étonnante. Dirigée par le professeur Eric Gage de l'université d'Aix-Marseille, pionnier de ce qu'on appelle les neurosciences des populations, qui étudie les effets de l'environnement social et émotionnel sur le cerveau humain. En collaboration avec le psychiatre Wissam El Hadj, professeur à l'université de Tours, ils ont eu l'idée de comparer l'intensité des émotions négatives, comme la peur, la tristesse ou la colère, exprimées massivement pendant le confinement sur les réseaux sociaux. Plus de 2 milliers de tweets géolocalisés en France ont été échangés entre mars et mai 2020. En croisant l'analyse de ces tweets avec celle des imageries cérébrales réalisées dans le même temps sur 95 de leurs patients atteints de pathologies neurologiques, le résultat est sans appel. Les jours où les émotions négatives étaient collectivement les plus intenses sur les réseaux sociaux, les chercheurs ont observé une diminution significative de l'activité métabolique dans les deux zones du cerveau impliquées dans le réseau cérébral de la peur. Le cortex préfrontal et le cortex cingulaire antérieur, connus pour leur rôle dans la gestion des émotions et du stress. Démontrant ainsi de façon objective, c'est une première, qu'un climat de stress émotionnel collectif pouvait engendrer des modifications mesurables dans le cerveau.
Un stress émotionnel collectif peut donc laisser des traces dans le cerveau.
Tout particulièrement chez des sujets neurologiquement vulnérables, comme c'est le cas dans cette étude parue dans la revue Frontiers in Nuclear Medicine. Reste maintenant à étudier si ces effets persistent sur le long terme, mais aussi comment cela est transposable à la population générale. En attendant, ce nouveau champ de recherche devrait permettre de prendre conscience, voire d'anticiper les conséquences d'un stress collectif sur notre santé mentale, en identifiant à la fois des marqueurs de vulnérabilité individuelle et des signaux d'alerte à l'échelle de la population générale. Nos résultats, je cite le professeur Eric Gage, illustrent l'importance des interactions entre société et cerveau. En révélant un lien entre le climat émotionnel collectif et des biomarqueurs cérébraux objectifs, cette étude ouvre de nouvelles perspectives en neurosciences sociétales pour mieux comprendre et prévenir les effets des crises collectives sur la santé mentale. Vu le nombre de crises en tout genre et de conflits auxquels nous sommes confrontés, il y a plus qu'intérêt à poursuivre ces recherches sur l'influence des stress collectifs sur notre santé en général.
Jusqu'où va la science ? Et Caroline, on vous retrouve la semaine prochaine au programme d'Autour de la question ?
Entre science et science-fiction lundi, jusqu'où nous entraîneront les redoutables champignons parasites, Mardi, nous nous demanderons s'il est possible de remonter aux origines de nos origines avec ou sans gêne.
Merci Caroline Lachowski. Et sur RFI, l'info continue. Il est bientôt 5h30 en temps universel. Dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec l'info africaine. Et vous continuez de suivre l'escalade entre l'Iran et Israël avec notre live sur RFI.fr.
RFI à Port-Louis, 93.2 FM.